Bonsoir chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue à En toute bonne foi. Cette semaine, nous allons faire du sport avec Aymeric Janson. Bonjour Aymeric.
Bonjour France.
Vous êtes éditeur, auteur de plus de 30 livres, dont beaucoup pour la jeunesse. Vous étiez venu nous présenter la bande dessinée de 1000 raisons de croire aux éditions Marie de Nazareth. Voilà, vous êtes diplômé en philosophie et en édition, n'est-ce pas ? Vous avez créé les éditions Baribal et d'autres, vous travaillez pour les éditions de l'Emmanuel. Nous parlerons aujourd'hui de votre roman « Un curé emmêlé » publié chez Quasar. Ce sera difficile pour moi d'avancer dans cet exercice aujourd'hui parce que je n'ai pas l'habitude de présenter les romans, mais finalement... ce roman, comme vous le disiez lorsque nous préparions l'émission, est le moyen de parler de choses très, très profondes. Donc voilà, ce sera certainement très intéressant. Alors merci de venir nous présenter ce curé emmêlé, puisque c'est le titre de votre livre. Nous sommes à la radio, donc je précise la mêlée du rugby. On ne peut pas parler du rugby comme vous le faites sans le pratiquer, n'est-ce pas ?
Ah oui, ce sera sans doute ma première confession. Oui, je joue au rugby effectivement depuis plus de 30 ans. Je ne me suis pas posé la question depuis un moment. Donc effectivement, j'ai longuement pratiqué ce sport que je continue d'ailleurs à pratiquer. Je viens de me remettre d'ailleurs au rugby contact, vrai rugby à 15, avec une joie immense. Et puis ça a pris une place forte dans ma vie, j'ose dire, et peut-être que ça nous amènera sur le sujet. Quelque chose comme une place spirituelle aussi dans la rencontre entre les hommes, notamment. Il y a quelque chose de très puissant qui se joue là-dedans.
C'est ce que j'ai perçu dans votre livre, effectivement. Alors, Aymeric, comment l'idée vous est-elle venue d'écrire ce livre ? On ne va pas trop dire ce qu'il en est, mais déjà, comment cette idée a-t-elle germé ? On expliquera après qui sont les personnages.
Ce livre a une histoire un peu rigolote parce que je suis donc à l'origine en responsabilité dans une maison d'édition et en prenant mon poste et en regardant le catalogue de cette maison d'édition, les éditions de l'Emmanuel pour ne pas les nommer, je fais le constat que nous n'avons pas de roman sur le sport et j'en discute avec l'éditrice en lui disant je pense que là il y a quelque chose à faire puisque le sport est une excellente métaphore de la vie spirituelle. Il y a vraiment des ponts intéressants à construire. Elle me dit « Ok, bonne idée, on travaille l'idée ». Et finalement, je la connecte avec un de mes amis en lui proposant d'écrire le livre. Et donc, je suis, si je puis dire, le début du travail. Voilà. Et début du travail qui va finalement pas beaucoup plus loin, puisque après plus d'un an d'essai, cet ami, un peu désolé, me dit qu'il n'arrive pas en fait à construire quelque chose qui lui donne suffisamment confiance pour avancer. Donc, je fais le messager auprès de mon éditrice et je lui dis bah voilà je suis navré en fait ce livre va pas se faire parce que voilà l'auteur n'y arrive pas et voilà et là elle se tourne vers moi avec des yeux de coquère elle me dit mais toi tu sais écrire je crois que tu connais le rugby est-ce que tu l'écrirais quoi et ça m'a pris de court j'avais pas pensé à ça et je lui dis écoute je prends une semaine pendant une semaine je réfléchis à des bouts d'histoire etc. Je te mets ça dans un bel, on en discute. Oui. Si c'est pas bon, c'est poubelle. Et si c'est bon, bah, c'est toi qui prends la main et tu me suis et on l'écrit. Et ça lui a plu, donc on y est allé. Voilà.
Alors nous rencontrons dès le début un personnage, Adrien, dans sa voiture vert pomme. J'ai souri et ri, et je ne suis pas la seule parce que j'ai prêté ce livre. Dès la deuxième page, je ne me suis plus arrêtée dans les suivantes. Mais j'ai aussi versé une larme d'émotion. Vraiment, je me suis cachée. Très, très belle histoire. Alors, je ne veux pas parler de l'histoire. J'aimerais que nos auditeurs la découvrent. Elle est vraie et c'est bon de lire un tel roman. Merci beaucoup. Je n'ai pas votre sens aigu de la critique littéraire. Je ne suis pas une professionnelle, mais c'est vraiment un très beau livre.
Merci.
Vous aimez écrire et vous le faites si bien. J'ai été touchée par cette scène du chevreuil au détour d'un bois qui est très joliment écrit. Et voilà, les auditeurs le découvriront. Alors, parlons, pour ne pas dévoiler l'histoire de ces personnages quand même, de cette secrétaire de paroisse, femme au fort tempérament. Je pense qu'elle a le don d'ubiquité, celle-là, parce qu'on la rencontre partout en France.
Exactement, c'est un des personnages qui est venu le plus facilement en fait, parce que voilà, dans une vie de chrétien catholique pratiquant comme je le suis, au rythme des pérégrinations familiales, on a traversé un certain nombre de paroisses, et il y a effectivement toujours ces profils de personnes incroyables, inspirantes, exaspérantes parfois, mais qui tiennent une paroisse en fait, qui sont là parfois en mode service, parfois salariés, parfois à mi-temps, etc. Tous les modes sont possibles, mais des gens souvent d'un dévouement complet. Et voilà, et l'idée, c'était de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on prend à partir de ça pour donner corps à un personnage qui va participer effectivement pour ce jeune curé qui va donc prendre une paroisse. Hein, c'est vraiment le début de l'histoire, c'est ça. Il arrive, pour la première fois, il est curé dans une paroisse. Et comment est-ce que ça va le mettre dans une atmosphère, voilà, qui ensuite va permettre le déploiement du reste.
Alors, il y a d'autres personnages très intéressants. L'organiste, les joueurs de rugby, parce que le curé va découvrir ce sport. Pouvez-vous nous dresser un peu un portrait de ces personnages qui sont tous hauts en couleur? Personne n'est terne.
Alors, ils proviennent tous de mélange de choses que j'ai vues, hein, vues, oui. Vécues en club. Donc, c'est ça qui est vraiment amusant, c'est que la matière rugbystique, vraiment, les choses qui sont... les scènes qui sont racontées, qui sont reconstruites, sont des scènes que j'ai vécues par bribes à l'entraînement, en match ou avec ces personnes. En fait, quand on essaye de réfléchir au monde du rugby, que j'ai donc pas pratiqué en professionnel, mais que j'ai pratiqué à la fois dans un cadre vraiment associatif et puis en compétition jusqu'à un certain niveau, le dénominateur commun de ça, c'est que quand on entre sur un terrain, en fait, on fait la vérité avec qui on est. Mmh. On peut pas tricher sur un terrain. Et ce qui se produit d'assez miraculeux, c'est que, en fait, il suffit de jouer un quart d'heure avec quelqu'un pour avoir une forme de préscience de qui il est. On peut ne pas connaître son métier, on ne peut ne pas connaître son prénom, son histoire, etc. C'est pour ça qu'on nous met des numéros dans le dos, c'est plus simple, oui. On a un numéro pour s'appeler. Non, c'est plutôt pour les postes, mais voilà. Mais en fait, on a l'impression d'avoir accès à l'être de la personne. Et ça, c'est une expérience que j'ai faite vraiment pendant 30 ans. Et quelque part, ces personnages qui ont une forme d'authenticité haute en couleur, comme vous dites, bah ça vient aussi de ça, de cette espèce de rapport vrai aux gens qui, je l'ai vécu en équipe, mélangent des notaires ou des chirurgiens et puis des gens qui sont des ouvriers, des étudiants. Enfin, il y a une espèce de creuset génial, en fait, ce sport.
Est-ce qu'on peut dire que ce livre s'adresse quand même un petit peu plus aux hommes?
Oui, je pense que oui. Je pense pas du tout qu'il soit pas lisible par des femmes, en tout cas sur les retours que j'ai, elles ont aussi vraiment apprécié et merci, vous en faites partie. c'est vrai que je pense que je l'ai écrit avec un cœur d'homme. Je ne sais pas comment dire ça mieux, mais dans ce récit, en fait, quand j'essaye de réfléchir à la genèse, pourquoi les choses se sont agrégées un peu comme ça, c'est la rencontre entre je parlais d'expérience spirituelle pour le rugby, une expérience de paroisse qui est celle simplement d'un paroissien, quoi. Mari, père de famille, un peu engagé en paroisse, je fais un peu de musique, je suis souvent donc dans des équipes
d'animation.
Voilà, d'animation musicale, etc. Et puis du côté du rugby, ce que j'ai décrit, et en fait c'est la convergence, c'est l'impression d'écho entre la fraternité, la camaraderie, en fait, qui peut être vécue d'un côté et de l'autre. C'est vrai, de manière, je crois, plus spontanée, plus facile au rugby, pour les raisons qu'on a évoquées. Oui. Mais finalement, il n'y a pas grand-chose à faire pour que ça puisse aussi se déployer en paroisse. Oui. Et c'est quelque chose que j'ai vécu déjà dans une ou deux paroisses, une manière forte de rapprocher, en fait, les hommes qui sont souvent les maris d'eux, enfin, qui sont souvent, voilà, et de leur donner, en fait, à la fois un rôle, une place, et de créer quelque chose d'un ciment qui vient en faire vraiment un groupe qui peut s'épauler, quoi.
Voilà. Oui. Alors, ce livre traite de la solitude du prêtre. Même s'il est entouré de paroissiens, le prêtre occupe une fonction qui crée une barrière invisible. Hein. Il est celui à qui on se confie, mais il a parfois peu de personnes à qui lui-même il peut se confier. Et il souffre de ça. Parlez-nous un peu de cette solitude des prêtres et comment y remédier ?
On peut en parler longtemps. Cette solitude, quelque part, elle est ontologique. J'en parlais avec un ami prêtre, justement, qui a lu le livre.
Alors oui, je me demandais si c'était le cas.
J'ai discuté, en fait, avec pas mal de prêtres, d'amis, à la fois en amont, un peu pour prendre des conseils, pour des prêtres qui ont vécu cette situation de jouer au rugby et d'être en même temps vicaire de paroisse.
Là, vous commencez à divulguer un peu l'histoire du livre.
Pardon, ouais, qui est sur la quatrième de couverture, mais oui. Absolument. Et en même temps, des prêtres qui l'ont lu après, et ce que me disait cette amie, c'est que, voilà, il y a vraiment cette séparation ontologique, en fait, qu'apporte le sacrement de l'ordre et qui fait que Bah, quand on est prêtre, on n'est plus tout à fait un homme comme un autre. On a tous les défauts d'un homme normal, on a toutes les capacités à dévisser, à faire des bêtises qu'un homme normal, il n'y a aucun doute là-dessus.
Oui.
Simplement, ontologiquement, il y a une différence. Et quelque part, cette différence produit en paroisse quelque chose qui est plus qu'un isolement dû à une posture de manager ou une posture un peu spéciale, puisque c'est vrai qu'un curé qui arrive en paroisse, il est un peu responsable de la paroisse, ça dépend un peu des endroits, comment c'est organisé et tout ça, mais... Bon, souvent, on a un peu l'impression que c'est lui le boss, quoi. C'est lui qui va donner le tempo.
En tous les cas, c'est à lui d'être le boss.
Voilà, ça devrait, pour ne pas trop en dire. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette séparation-là quand on est... Donc, moi, je ne suis pas prêtre. Hein, quand on est paroissien, qu'on est donc à côté, comment est-ce qu'on accompagne ça? De quelle manière, en fait, on peut évidemment respecter cette différence, mais aussi créer des espaces d'accueil, de fraternité, je dirais d'attention, en fait, pour ces prêtres qui sont donnés à leur communauté. Leur travail est quand même quelque chose de enfin, relier le ciel et la terre, s'il n'y a
oui.
pas une vocation plus immense que ça. Donc, il y a quelque chose vraiment d'incroyable là-dedans et d'incroyablement généreux. Comment est-ce qu'on prend soin d'eux? Comment est-ce qu'on les aime? Voilà.
Oui. Alors, nous allons faire une petite pause et nous reprendrons tout de suite après.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Je reviens un petit peu sur cette solitude qui peut être une solitude pastorale et institutionnelle parce qu'il y a une crise des vocations, donc forcément tous les prêtres n'ont pas forcément la possibilité de vivre en communauté ou au moins à deux et trois dans nos villages. Là, on sent dans ce livre combien cette solitude lui pèse. On sent que les paroissiens autour aimeraient bien faire quelque chose, mais ils ne se sentent pas prêts. Déjà, l'arrivée d'un nouveau prêtre, ça veut dire faire le deuil de ce qui se faisait avant. Donc ça aussi, il faut qu'ils le gèrent.
Tout à fait. Il y a toujours le complexe de je remplace une personne qui vient de partir. Alors, là, ça ne va pas dévoiler grand-chose, mais dans l'histoire en particulier, le prêtre précédent est carrément mort, il a disparu.
Oui.
Donc, on peut imaginer en plus un contexte un peu rapide quoi,
un traumatisme de
transition. Et, mais voilà, quand surgit un nouveau curé, on sait qu'il est là pour un certain nombre d'années, c'est l'évêque qui décidera, mais il ne sera pas là pour toute la vie. C'est transitoire, et pourtant, la mission n'attend pas. Il y a plein de choses à faire, il y a des groupes à soutenir, il y a des idées à mettre en place, il y a des choses à créer, il y a des paroissiens à confesser, enfin bref, il faut tout faire, quoi. Voilà, la vie sacramentelle et la vie de la paroisse. Et plonger là-dedans, effectivement, ce livre pose un petit peu la question de la solitude, à laquelle aujourd'hui, je pense, répond une forme de prise de conscience. Enfin là, pour le coup, dans des choses que je lis et que j'écoute quand même assez souvent, cette solitude du prêtre n'est quand même pas une nouveauté, c'est quelque chose dont je crois l'Église a pris conscience et qu'elle essaye de contrôler, d'accompagner avec notamment des regroupements, des presbytères en fait, qui sont des endroits partagés. Mais c'est vrai que quand on est en pleine campagne, évidemment, ce n'est pas du tout la même chose que quand on est en ville ou pas très loin de la ville. Ouais.
Alors, comment y remédier? Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, fidèles? Parce qu'on pense au repas paroissial, enfin, les invités chez nous. Mais est-ce que ça comble vraiment une solitude?
Je pense que si la question est posée comme ça, on ne peut pas combler une solitude. Je pense que la solitude du prêtre fait partie en fait de ce qu'il accepte, à mon avis, avec le sacrement. Ça ne peut être comblé que par son ouverture à Dieu, à mon avis. Hein.
C'est ce que dit Saint Jean-Paul II.
C'est ce que dit Saint Jean-Paul II. Ouf.
On peut
tout à fait et vraiment c'est ce que je crois et c'est ce que j'ai déjà vu accompagner des prêtres, mais les accompagner non pas en leur serrant la main sur le parvis juste après la messe et en leur souhaitant un bon dimanche après-midi, mais en prenant régulièrement des nouvelles, en leur envoyant des textos gratuits, juste comme ça, pour dire, voilà, je pense à toi, j'ai prié pour toi ce jour, j'ai lu telle phrase, ça m'a fait penser à toi, ou alors comment s'est passée telle réunion que tu avais, etc. Je pense que tout ça, c'est des relations normales, humaines, en fait. On a besoin de se redire que le prêtre est un humain, quoi. Mmh. Il est différent... Mais il a les mêmes besoins humains que n'importe qui dans nos familles et dans nos cercles d'amis. Et ce que j'avais vu monter, notamment dans la paroisse précédente où j'étais, au Clay-sous-Bois, pour ne pas la nommer, Villepreux-les-Clés, c'est précisément un groupe d'hommes, d'une quarantaine d'hommes de la paroisse, qui se retrouvent très régulièrement et qui a vraiment qui a créé une espèce de phalange autour du curé, quoi. Il y a un truc assez extra dans la façon dont il en est évidemment pas du tout prisonnier. De temps en temps, il est là, de temps en temps, il n'est pas là, etc. Mais c'est pour lui un lieu de ressourcement.
Ah oui.
Et un lieu où il n'est pas en situation d'organiser, où il n'est pas en situation... Ce n'est pas le patron, il n'est pas là pour ça.
Mais il peut s'y ressourcer.
Exactement. Et il vient trouver de l'amitié, de la prière des frères, de l'écoute s'il en a besoin, même si évidemment qu'il ne peut pas tout dire, et ce n'est pas non plus un lieu, ce n'est pas un confessionnal, ça n'a pas vocation à l'être. Mais ça, c'est des espaces de vie, je crois, qui font, qui protègent, qui font grandir.
Alors, je vais revenir à Saint Jean-Paul II. Puisque, il dit dans son exhortation pastoresse d'Abo Vobis que le célibat et la solitude ne sont pas des privations, mais une manière de rendre le prêtre plus disponible à l'amour. Alors, je vous cite, « Le prêtre doit trouver dans sa solitude non pas un vide qui l'isole, mais l'espace de sa rencontre avec le Seigneur pour devenir à son image un serviteur de tous. »
Ah, magnifique, tout est dit, oui.
Oui. Alors, cette fraternité d'hommes qui l'entoure, là, j'ai une petite question parce que il n'est pas là comme aumônier, il est juste là comme membre du groupe. Donc, si je vous comprends bien, il faut qu'on puisse de temps en temps le détacher de sa fonction de prêtre pour pouvoir lui permettre d'être un homme, tout simplement.
En tout cas, c'était vraiment c'était l'idée de ce groupe et j'ai vu les fruits que ça portait. D'abord des fruits pour le curé lui-même qui vraiment a développé en fait avec ce groupe, mais surtout avec les personnes du groupe, hein. Le groupe c'est d'abord les personnes, des relations très fortes en fait, d'amitié spirituelle et puis d'amitié du quotidien en même temps, puisque une paroisse c'est un territoire géographique, on se croise en fait, hein, on est quand même souvent en contact les uns avec les autres. Et j'ai vu aussi du fruit du côté des personnes qui constituaient ce groupe.
Ah oui.
Et notamment un des pères qui était là, qui était là par amitié au début, donc qui lui-même était pas baptisé et qui en fait est rentré sur une trajectoire où il a demandé le baptême, etc. Cette fraternité vraiment l'a touché au point que quelque part ça a été pour lui une étape importante pour rentrer en contact avec ce Dieu qui lui tendait la main, mais il fallait la saisir et ça a été cette occasion-là. Donc ça marche dans les deux sens et dans les discussions que j'ai parfois avec mon épouse ou avec d'autres qui nous disent « Mais quand même, ce groupe sans femmes, c'est quand même pas un truc un peu scandaleux quand même parce que vous excluez les femmes et tout ça, c'est en rigolant. » Mais en fait, je comprends complètement la question et ça me permet de dire que dans ces groupes-là, en fait, se joue une histoire de pudeur, de capacité à se dire et à poser des choses qui sont lourdes, et on fait ça différemment quand on est entre gars, peut-être parce qu'on est un peu rusto, peut-être parce qu'on est un peu mal dégrossi, je sais pas, on n'a pas la sensibilité, la finesse de nos épouses, mais il se joue là-dedans en fait quelque chose qui peut vraiment creuser très profond, voilà. Et ça vraiment je l'ai vu, donc c'est quelque chose qui est beau et à nouveau je l'ai vu porter des prêtres.
Alors, disons quand même que dans votre livre, un groupe d'hommes se constitue. Et c'est très beau de voir l'évolution de ce groupe. Est-ce que ne pas voir la solitude des prêtres, c'est se confronter à nos responsabilités?
Oui, je pense que... je pense d'abord qu'en tant que chrétien, l'autre, le prochain... c'est aussi celui qui célèbre la messe ou qui célèbre l'office ou le baptême ou ce qu'on veut. Y a pas de raison en fait de l'exclure en tout cas de cette manière de veiller les uns sur les autres. Et je pense qu'un prêtre qui va bien, c'est une communauté qui grandit. Je pense qu'il y a quelque chose de la. Je veux pas être mystique ou grandiloquent, mais Il y a un petit truc de la Jérusalem céleste qui est appelé en tout cas à s'incarner en paroisse. On ne va pas avoir une colonne de lumière de 100 mètres de large qui va s'ouvrir dans le ciel et tout, mais juste dans le quotidien, dans la manière d'être les uns avec les autres, dans la manière d'être solidaire avec le cœur en fait. Je pense que ça, c'est des choses qui sont pas très compliqués à mettre en place. On n'a pas besoin d'avoir de budget pour ça, on n'a pas besoin de faire beaucoup de réunions. Cette attention du cœur et donc cet endroit de croissance en fait que peut être une paroisse dans un climat comme ça, je pense que c'est la vocation des paroisses, quoi.
J'ai été surprise la première fois que vous l'avez écrit, Barzoï. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc je me suis dit, je vois que le mot revient. J'ai fini par en comprendre la signification. Mais je suis quand même allée voir la définition et j'ai découvert que c'était un chien, un lévrier.
Absolument. Alors quand je construis des personnages, et j'en ai parlé encore pas plus tard qu'hier avec une jeune femme que j'accompagne dans l'écriture de son roman, je réfléchis à... On part toujours d'un archétype. Et ensuite, on amène des biais de singularité. On va travailler ce personnage pour le rendre vivant. Et souvent, un gimmick, une expression, quelque chose qui nous échappe, ça en dit souvent beaucoup sur qui on est, on ne s'en rend pas compte. Mais voilà, et donc avoir un personnage avec une ou deux expressions à lui, j'avais déjà fait l'expérience que c'était intéressant. Et là, voilà, je voulais la mauvaise conscience du curé qui souhaite dire un autre mot qui commence par B mais qui n'ira jamais jusqu'au bout et qui se dit, mais en fait, ce mot n'a absolument rien à voir. Effectivement, c'est une race de lévriers afghans, donc vraiment, ça n'a rien à voir. En revanche, ça permet de décharger et l'énergie sonne. Et quand ça sort, ça sort.
Oui, voilà. Et ça sonne, c'est très amusant. Alors, c'est amusant parce que ce personnage, quand on lit un livre, on imagine tout de suite le personnage. Et quand je découvre quelques pages plus tard qu'il est roux, j'ai été complètement déstabilisée. Je l'avais oublié au fur et à mesure parce que j'avais construit mon personnage et vous le dites à plusieurs fois à reprise qu'il est rouquin. Donc voilà, c'est très bien, c'est très amusant comment vous présentez tout ça. Alors, est-ce que ça vous a plu d'écrire une homélie? Je pense que vous pourriez être coach, vous savez, ça existe, coach de prêtre pour les homélies.
Alors,
ce parallèle que vous avez fait, alors je ne dirai pas tout, mais entre le sport, non mais c'est extraordinaire.
Il faut rendre justice à Hélène, mon éditrice, dont j'ai parlé déjà au début de l'émission, qui en fait a lu la première version du roman, m'a dit « Écoute, il y a plein de trucs super, mais ton homélie, elle est vraiment naze, quoi, il faut la reprendre. » Et effectivement, elle avait complètement raison, il y avait un truc très plaqué qui ne marchait pas, etc. Et donc, c'est sans doute le moment dans le retravail de la version 1 où je pense que c'est vraiment le moment où j'ai dit au Seigneur, là, il va falloir que tu m'aides et que tu fasses quelque chose parce que j'ai vu que c'était pas bon, la première version, pas d'idées, voilà. Là, et donc j'ai prié, en fait, avant d'écrire cette deuxième homélie. Ça n'en est pas pour autant une page d'évangile. En revanche, quand elle l'a lue, Hélène m'a dit, effectivement, voilà, c'est tout à fait autre chose. Ça prend bien sa place et c'est mieux.
Oui.
Et quelque part, j'étais pas descendu assez loin sur précisément ce sujet, moi, qui me passionne, qui est la manière dont on peut vivre le sport comme une allégorie de la vie spirituelle, avec ses blessures, avec cet entraînement aride du quotidien, mais qui permet d'amener peu à peu la performance, avec le fait de répéter, d'être les uns avec les autres, avec le fait d'accepter d'être pas bon certains jours, d'accepter d'être meilleur d'autres jours, etc., etc. Il y a beaucoup de choses en fait là-dedans qui sont, je crois, un trésor de sagesse en fait qu'on peut vraiment déployer du côté de notre relation à Dieu. Et je pense que, quelque part, c'est pas pour rien qu'on dit que on est fait pour être monos, quoi. On est fait pour être unifié. Mmh. Voilà, que le sport rencontre la vie spirituelle, finalement, ça devrait pas beaucoup nous étonner.
Mais... Oui. J'ai même pensé à un moment que peut-être vous aviez commencé par écrire l'homélie et que le livre s'était articulé autour.
Et non, elle est arrivée effectivement sur la deuxième version.
Oui,
comme la première ratée, donc, mais était quand même un moment qui permettait de donner accès au cœur profond, en fait, évidemment, du personnage, puisque c'est un moment un petit peu où les arcs enfin se complètent, en fait. On a un mouvement de convergence qui va se faire, et ça se déploie vraiment à ce moment-là. Mais voilà, non, elle est venue... Je pense qu'il y avait besoin de tout le soubassement avant, notamment tout le travail sur les personnages. Et il fallait partir de la terre, quoi. Voilà.
Je pense que à la fin de la lecture de votre livre, les prêtres doivent peut-être pour certains être envieux parce qu'il a vraiment réussi à créer quelque chose.
Oui, je ne sais pas si ça. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça peut
éveiller,
même si les retours que j'ai eus étaient en tout cas des retours heureux chez même un prêtre, celui justement qui a pratiqué le rugby quand il était vicaire, qui est un prêtre de Paris, J'avais parlé un peu avec lui en amont, et quand il m'en a parlé, après l'avoir lu, il m'a dit « mais c'est génial, c'est mon histoire en fait ».
Ah, excellent.
Et j'ai trouvé que c'était hyper touchant comme retour en fait, parce que quand on est romancier, on est évidemment, on se met dans les chaussons de personnages que par définition on n'est pas. Et donc ça, c'était vraiment, c'était une expérience intéressante. Mais je pense que les prêtres, en fait, ont une... moi, j'admire ça, une humilité aussi par rapport à ce qu'ils essayent de construire et que, voilà, ensuite le Seigneur dispose, quoi. On propose et le Seigneur dispose.
Alors, malgré le fait que vous parlez donc de cette solitude du prêtre, on n'est pas du tout plombé. Il y a vraiment, c'est un livre très joyeux. On sourit beaucoup, on a envie de se laisser toucher par tous ces personnages qui s'apprivoisent et cohabitent. Et on a même envie d'être paroissien de cette église Souvigny-sur-Moquette.
Savigny-les-Moquettes.
Savigny-les-Moquettes, voilà. Alors, merci Aymeric Janson de votre visite dans nos studios. Je rappelle votre livre « Un curé en mêlée » chez Quasar. Je serai très heureuse de retrouver Adi dans la suite de son ministère. Merci.
Message reçu. Merci France pour l'invitation.
Merci, bonne semaine chers auditeurs.